Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour et bienvenue dans cette émission préparée par Jeanne Paravert, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, c'est Guillaume Roux. Et la gourmandise du jour, c'est un passage du roman publié en 1983, Michael K, sa vie, son temps, de l'écrivain sud-africain John Coetzee. Michael K naît avec un bec de lièvre, ce qui diminue grandement l'amour que lui porte sa mère, si l'on peut parler d'amour. Le livre décrit une violence existentielle absolue dans un style sobre, incisif, puissant et sans pathos. Je vais vous lire un passage beau et brutal, un résumé magistral d'une période de la vie du héros qui vient de trouver un emploi de jardinier échelon 3B au jardin public de la municipalité. La traduction est de Sophie Maillot. 3 ans plus tard, il quitta les parcs et jardins et après une période de chômage qu'il passa allongé sur son lit à regarder ses mains, il trouva un emploi de gardien de nuit aux toilettes publiques de Green Market Square. En rentrant du travail, une nuit, c'était un vendredi, il fut attaqué dans un passage souterrain par 2 hommes qui l'assommèrent, lui prirent sa montre et le laissèrent à terre avec un bras tailladé, un pouce luxé et 2 côtes cassées. Après cet incident, il renonça au travail de nuit et retourna au parc et jardin où une lente promotion fit de lui un jardinier échelon 1. Avant d'être une traductrice de renom, notre apothicaire de l'âme enseigne la littérature anglaise dans le secondaire et en classe préparatoire à Henri IV et la littérature française sur des campus américains. Née à Tunis, cette passeuse grandit à Paris, Rouen, Marseille et débute une idylle avec la langue anglaise grâce à 3 médiateurs, sa grand-mère angliciste, les chansons de Mick Jagger et une thèse sur Henry James. Suivent une agrégation d'anglais, un doctorat de littérature et une licence d'anthropologie. Un camarade de Paris 3 qui termine sa thèse lui propose, faute de temps, d'effectuer une traduction pour Le Seuil à sa place. Elle s'attelle à retranscrire un livre sur le château de Versailles, sous-titré « Passion et politique ». Sa deuxième traduction, « Les mémoires de Christophe Colomb », lui vaut un prix littéraire et lance sa carrière. Virginia Woolf, Richard Ford, John Irving, Jack Kerouac, Bernard Malamud, Jonathan Coe, George Orwell sont quelques-uns des écrivains dont elle a restitué la musique. Dans cette liste, je ne peux évidemment omettre le nom de Philippe Roth, dont elle fut la traductrice pendant 20 ans. Cet artisanat d'art, notre apothicaire ne s'y adonne que sur des textes qu'elle affectionne. J'ai déjà passé une grande partie de ma vie à faire essentiellement ce qui me plaisait, ce n'est pas maintenant que je vais changer, disait la franchie en 2012. Séduite par l'ailleurs, elle devient inspecteur général en 2002 et le reste 10 ans. Et là vraiment ça n'a rien à voir, mais je voudrais finir en saluant à distance le félin persan aveugle qu'elle évoque dans un article en souvenir d'une émission sur la chaîne dans laquelle notre invitée disait son amour pour le poème Le Chat d'Apollinaire. Bonjour José Camoun.
Bonjour à vous.
Vous dites dans une interview, José Camoun, que le métier de traductrice correspond bien à votre côté obsessionnel de ressasseuse. La première question de l'émission, c'est quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ? Et je vous le demande d'autant plus que ce mot ressasseuse m'a frappée parce que souvent ça peut être une composante de la mélancolie.
Oui, vous avez tout à fait raison, je ne pense pas que ce soit un hasard. Effectivement, le mélancolique ressasse ses souvenirs et soit il ressasse de mauvais souvenirs et effectivement c'est pas très bon pour son moral, soit il en ressasse de bons mais avec une composante nostalgique aiguë, ce qui n'est pas non plus à tout prendre particulièrement sain. Je dirais que la mélancolie c'est un luxe. La mélancolie, on a écrit, on chantait, la nostalgie c'est comme l'alcool, c'est un toxique. Je pense que la mélancolie aussi, qui est la cousine de la nostalgie, intoxique. C'est un luxe de nanti, ça veut dire que quand on a une vie riche, je ne parle pas riche bien sûr sur le plan financier, lorsqu'on a une vie intense, qu'on a des rapports qui sont particulièrement heureux ou en tout cas constructifs, intenses avec son entourage, on peut se permettre de cultiver la mélancolie à dose homéopathique. On dit bien à dose homéopathique, sans laisser griser, mais éviter la gueule de bois.
Vous y arrivez ?
J'y arrive, peut-être, je dirais peut-être de mieux en mieux.
Donc ça s'apprivoise et on peut faire des progrès.
Oui, ça s'apprivoise, ça se diagnostique aussi. Quand on est sur une pente mélancolique, il faut en être conscient et savoir, on peut rediriger éventuellement l'esquif.
Vous avez l'air, malgré tout, José Camoun, plutôt vers l'élan vital. Je lisais une interview où on vous interrogeait après la mort de Philippe Roth. On vous disait, vous êtes triste, vous qui avez passé tant d'années à être sa traductrice officielle. Et vous disiez, triste, mais absolument pas quand je vois tout ce qu'il nous a donné comme œuvre, malgré tous les problèmes de santé qu'il avait, l'énergie qu'il a déployée pour nous laisser cette œuvre, comme un cadeau finalement. Je trouve ça épatant. Donc vous êtes vraiment du côté de la réjouissance et pas de la lamentation.
Oui. En tout cas, quand je suis du côté de la lamentation, j'essaie de le garder pour moi.
Oui.
Mais je crois vraiment qu'en effet, nous avons les poches pleines. Nous ne connaissons pas nos richesses. Nous pouvons hériter d'étrangers, y compris, bien entendu, et peut-être au tout premier chef, des artistes qui ne nous sont pas liés par le sang. Mais nous sommes les héritiers de tout ça. Il faut regarder au fond de nos poches. Elles débordent.
Ne s'entend pas, alors je lis sur tes lèvres. Tout s'éclaire quand tu es là, tes absences sont mes ténèbres. On m'a dit, refaisons la paix, on parle en feu de Bengale. Quand vient l'aube, tu disparais, ne me laissant que tes sandales.
À la mélancolie sur France Inter en compagnie de José Camoun, en l'honneur de qui nous diffusons un extrait bilingue.
L'infortunée porteuse de cette lettre.
Den ulykkelige overbringer af dette brev, Madame Babette Hersin, har, som også min skønne kejserinde selv, måtte flygte fra Paris.
La guerre civile a fait rage dans nos rues.
Borgerkrigen har raset i vores gader. Madame Hersins mand og søn er blevet skudt. Selv undslap hun med nød og næppe general Gallifets blodplettede hænder.
1987, le festin de Babette de Gabriel Axel, l'adaptation d'une nouvelle de la danoise Karen Blixen, d'abord publiée en anglais en 1950. On est déjà dans des histoires de langue, José Camoun. La regrettée Stéphane Audran incarne Babette, une Française fuyant la répression de la Commune en 1871, qui trouve un poste de domestique dans un village de la côte danoise. Est-ce que vous pourriez faire une ébauche de l'intrigue avant de nous dire pourquoi vous avez choisi ce film ?
Ah, c'est un film où il n'y a justement pas vraiment d'intrigue. Alors quand vous dites qu'elle trouve un poste, en réalité, elle épluche les patates pour ce clergyman et ses sœurs, si mes souvenirs sont bons. Donc elle arrive dans une communauté extrêmement austère, non pas du tout sèche ou froide, mais très austère.
Et dévote.
Dévote, de gens qui ignorent à peu près tout du plaisir, et certainement du plaisir gustatif, parce que manifestement, la soupe c'est de l'eau de vaisselle et tout est à l'avenant. Et donc cette Stéphane Audran, qui est un personnage mystérieux, dont nous ignorons ce qu'elle pouvait bien faire en France, va petit à petit se faire prendre en amitié par ces gens et réciproquement, et elle va petit à petit, à sa manière discrète, améliorer l'ordinaire. Jusqu'au jour où, ayant joué à une sorte de loterie, elle gagne le gros lot. Et tout le monde est persuadé qu'elle va retourner en France. C'est manifestement la chose la plus évidente et la plus sentimentale qu'elle pourrait faire. Mais pas du tout. Elle va faire un banquet, un festin. Ils seront pas nombreux. Il y a les gens, ses employeurs qui sont en train de devenir un peu sa famille. Et puis des messieurs de passage qui sont des officiers d'Empire, si mes souvenirs sont bons. Et ce festin est tout à fait mémorable. Et alors, c'est un petit peu comme les pèlerins d'Emmaüs reconnaissant le Christ. Hein. Ces officiers vont dire, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut faire un tel plat, c'est madame qui était restauratrice à Paris.
Au café voilà. Anglais, qui était vraiment une institution à voilà. l'époque.
Et donc tout le monde, en fait, c'est un instant de grâce où ces gens, ces calvinistes austères, mais cependant bons, découvrent quelque chose qui s'appelle le plaisir, et particulièrement un plaisir raffiné, il y a de très bonnes bouteilles. Et à la fin du banquet, tout le monde se retire, et le lendemain, ses hôtes lui disaient, maintenant vous allez rentrer en France, Babette. Ah, mais non, madame, car je n'ai plus rien. Elle a tout donné dans ce festin, ces quelques heures de grâce, et elle va rester auprès de ces gens qui sont un peu sa famille, comme on disait.
Qui sont un peu sa famille, mais qui malgré tout sont ambigus par rapport à Babette, puisque à un moment, leur côté dévot fait qu'ils se méfient des plaisirs de la chair et la considèrent comme une sorcière. Et en fait, ils vont se gâcher pour la plupart le dîner, c'est-à-dire un moment de grâce intense. Ils vont se le gâcher tout seuls en pensant qu'elle va les empoisonner, que c'est une tentatrice.
Mais c'est une allégorie, cette nouvelle et ce film. C'est magnifique, c'est la scène avec un C, je veux dire.
Oui, ils sont 12 à table.
Ce n'est pas par hasard.
Vous vous souvenez du menu, José Camoun ?
Non, je vous avoue que j'ai vu le film au moins 3 fois, mais je ne me souviens pas du menu. On va chercher ça. Peut-être même essayer de le faire.
Alors, si vous êtes prête à faire des cailles en sarcophage farci au foie gras et sauce aux truffes, on peut le faire. Moi, je vous regarderai.
N'ayons pas peur.
D'accord. L'activité, justement, qui vous met en joie, José Camoun, ça reste dans le ton, puisque c'est faire la cuisine, mais vous nous avez répondu faire la cuisine, pardi, point d'exclamation. Alors, pourquoi une telle évidence ? D'où vient une telle évidence ?
Parce que peut-être c'est le premier plaisir de la vie, semble-t-il, hein, le plaisir gustatif, même si le premier plaisir est réduit à la consommation du lait. Parce que c'est faire quelque chose. Je pense que peu de tristesse résiste à se faire.
L'action.
À cette action-là, cette action très manuelle, très tactile, qui met tous les sens en batterie, je dirais. Et on ne peut pas être triste longtemps en faisant à manger à des gens qu'on aime. Évidemment qu'on va faire à manger à n'importe qui et des gens parfaitement indifférents. Donc, mitonner, d'ailleurs, la langue française est riche, hein, on ne va pas les évoquer tous, mais les riches en verbes qui dénotent toute cette affectivité du culinaire.
Là, vous dites cuisiner pour des gens qu'on aime. Et c'est la question que je pose toujours à mes invités quand ils me parlent de cuisine. Est-ce que vous cuisinez aussi pour vous lorsque vous êtes seul ?
Et comment ?
Ah, alors ça, vraiment, c'est une preuve d'amour envers vous-même. Bravo.
Et je le fais aussi par... je suis aussi mon propre cobaye. Comme ça, je peux savoir. Par exemple, je raffole des beignets de courgettes. Je voulais en faire et j'ai mis assez longtemps à mettre la pâte au point. Mais ça y est.
Ça y est.
Oui, j'ai même fait des beignets de fleurs de courgettes.
Oh, alors ça, on l'attendait et vraiment, le monde est ravi. Est-ce que vous avez une spécialité, une recette comme ça à transmettre ?
À transmettre la purée de poivrons et de tomates, une sorte de compotée de poivrons et de tomates. C'est extrêmement savoureux et sain. Il faut bien sûr faire griller les poivrons pour les éplucher. On les met ensuite dans un journal, après les avoir passés sous le grill. Et au bout de quelques minutes dans le journal, la peau s'effiloche très facilement. On enlève les grains. On les met avec des tomates qui sont elles-mêmes, bien sûr, épépinées et épluchées dans une poêle, avec 2-3 cuillerées à soupe d'huile d'olive, du sel du poivre. poivre et on attend que vraiment toute l'eau soit évaporée et qu'on ait une compote de tomates poivrons à laquelle on pourra ajouter une petite giclée de vinaigre balsamique et puis quelques olives noires, pourquoi pas. Alors bien sûr, basilic, enfin toutes les herbes qu'on veut.
Je n'ai qu'un mot à dire, miam.
L'ignorance de Whistler était feinte. Il était impossible de se laisser prendre à la comédie dont je fus témoin. Il affecta ce jour-là, ça devait être vers 1895, d'avoir tout récemment découvert la galerie du Rang-Ruel et du même coup l'école impressionniste. Un certain Monet ou Mounet, quelque chose comme cela, et Pizzo Pissora, Camille Pissarro, fit naïvement Marcel Schaub. Oui, ce doit être cela, Pizzarro, c'est cela. Est-ce que ce sont vraiment des peintres ?
L'artiste peintre Francis Jourdain rapporte en 1947 sur la RTF un dîner auquel il a participé avec l'auteur du tableau qui vous grise, José Camoun, le peintre et graveur américain Whistler. Et alors là, on a un Whistler assez envieux et jaloux qui nous est dépeint. Et le tableau, c'est Cremorne Gardens No. 2, peint en 1877, un tableau qui tire son nom de jardin londonien situé à Chelsea, près de là où vivait l'artiste. Vous en avez fait une jolie description. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous voulez que je vous la lise ou est-ce que vous voulez en parler?
Oh, je peux en parler spontanément. C'est un tableau que je vais voir chaque fois que je vais au Met à New York. Je vais lui rendre visite, peut-être pour m'assurer que je ne l'ai pas rêvé. Ça fait partie de ces œuvres qui vous sont immédiatement tellement intimes qu'on se demande si, dans un éclair de génie, elle n'aurait pas pu sortir de votre tête. La première fois que je l'ai vue, j'ai ressenti une émotion intense et troublante pour les auditeurs. C'est un tableau qui représente des gens que l'on voit de dos et qui se rendent dans ce qu'on appelait des jardins de plaisir, c'est-à-dire des parcs d'attractions où il y a des manèges, où il y a des guinguettes, je pense, des stands. Et donc, vous avez dit, ce tableau qui vous grise, vous ne pouviez pas trouver de verbe plus juste parce que c'est une légère griserie. Et d'autre part, ce tableau, il est dans les gris, curieusement. C'est-à-dire qu'on est au crépuscule et c'est l'heure où toutes les couleurs se confondent. Et on a l'impression que le peintre Whistler, qui était, semble-t-il, un mauvais coucheur et un sale type, donc apparemment l'anecdote, cet extrait semble l'attester, ce peintre Whistler a peint le fond, en quelque sorte, c'est-à-dire ce jardin de plaisir dont les tons sont en train de se confondre, et que par-dessus, il aurait en quelque sorte rebrodé la silhouette des passants, enfin, ce ne sont pas des passants, de ceux qui s'acheminent vers ces plaisirs-là. Et notamment, les robes des femmes sont des couleurs de barbe à papa, elles sont vaporeuses. Comme si ces personnages allaient se dissoudre dans cette nuit délicieuse qu'on devine tiède, parce que leurs costumes sont des costumes estivaux. Et c'est donc une heure fusionnelle, en quelque sorte. Et ce que j'aime chez Whistler, c'est que c'est un peintre de la fusion.
Oui, c'est vrai. On sent en effet l'ivresse et la dissolution des particules qui nous constituent. On a envie de se perdre comme ces personnages. Mais il y a un côté aussi, justement, vous disiez vaporeux, j'irais même jusqu'à dire nébuleux. Il y a un côté bilieux, finalement. La mélancolie n'est pas totalement absente de ce tableau.
Elle n'est pas totalement absente. Et ça me fait penser aussi à un très beau tableau de Watteau qui s'appelle Les Cousines, qui est, j'allais dire, photographié à la même heure, qui est peint à peu près de façon crépusculaire comme ça aussi. C'est-à-dire que la mélancolie qu'on peut ressentir à voir ce tableau, je pense qu'elle est purement biologique. C'est les couleurs qui y sont pour quelque chose, ces formes qui se dissolvent. Et aussi l'idée que ces plaisirs de la nuit ont un caractère évidemment éphémère. Cette ivresse, comme vous dites, on en reviendra tôt ou tard. Peut-être plutôt tôt que tard.
J'espère. Il y a quelque chose qui m'a fait penser à la traduction. Il y a cet extrait de Whistler qui s'exprime dans The Red Rag. Il dit « Il faut débarrasser l'art de tout ce qui est poudre aux yeux. L'art doit rester lui-même, agir par les impressions qu'il communique à l'œil ou à l'oreille. » J'insiste sur impression, puisque j'ai pensé évidemment à la traduction, José Camoun. Vous dites « Un traducteur ne traduit pas des mots, il ne traduit pas des phrases, il traduit des effets. » Et vous dites aussi « La traduction littérale n'est pas forcément une traduction fidèle. » C'est amusant que vous ayez choisi un peintre qui donnait à ses œuvres des termes empruntés à l'univers musical, symphonie, nocturne, arrangement, harmonie.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a quelque chose qui est à la fois qui relève de la composition, on pourrait dire, hein. Et symphonique est un bon mot, je pense, pour qualifier Whistler, parce que c'est tout juste si on n'entend pas la musique de cette soirée. On imagine qu'il y a des kiosques avec des flonflons, mais des flonflons qui sont légèrement distant, lointain, et dont on entend en quelque sorte que la rumeur. Le traducteur, c'est d'abord un lecteur. Je dirais que c'est le traducteur, c'est le premier lecteur ou le lecteur premier. Et donc, pourquoi X traducteurs produiront X traductions différentes, c'est pas seulement pour des raisons de compétence, et pas du tout même à la limite, c'est parce qu'ils ne verront pas la même chose, ils n'entendront pas la même chose, ça ne va pas les affecter pareillement.
Là, par exemple, vous venez de traduire 1984 oui. de George Orwell dans une toute autre traduction que celle qu'on connaissait, et pourtant c'est le même livre.
C'est le même livre, mais on lui a donné un coup de spot, des coups de spot qui ne sont pas aux mêmes endroits. On en a fait ressortir d'autres aspects. C'est pour ça qu'il faut retraduire indéfiniment les classiques, pas parce qu'ils ont été mal traduits au départ. Ils le sont parfois, mais peu importe. Quand bien même ils auraient été magistralement traduits au départ, simplement, la traduction a une vocation chorale. C'est ça un classique.
On parlera d'ailleurs de classique dans un instant. On parlera littérature et musicalité sur France Inter.
I see some troubles heading my way, but I don't care at all. I see a problem coming to me, but I'm not scared at all. I know them well, they know me well. They come and go before you know. I am their friend, they don't pretend. We disagree about my misery. I see a huge storm of hail. To the sky I give a fire. I cannot work, say what the hell, then I keep calm and dive. I dance with the worst, worst dances with me. He smiles at me, I love for us both. We dance a vals, we dance a twist, with a nice swing, once or twice. With all the love, without the pain, I accept you all and sing my refrain. Cause you at least my little beast. You give me all, expecting nothing in return. I ride along the highway of life, weaponless, no gun, no knife. Just like a doll, I can't control matters, feelings and stripes. I love my issues, give them and tissues that I usually use to wipe my tears. Collect them one by one, accepting all is gone. This is madness and fun without complaints. With all the love, without the pain, to you all and sing my refrain. Cause you at least my little beast. You give me all, expecting nothing in return.
Meriem Abouloafa, welcome back to me. Dans Remède à la mélancolie sur France Inter, nous sommes en compagnie de la traductrice José Camoun.
Pour faire de l'ordure, il faut en être sorti, n'est-ce pas? Il faut justement en être très détaché, et c'est mon cas. Je suis essentiellement raffiné et essentiellement plutôt puritain. Je bois de l'eau, je mange des nouilles, et je ne fume pas, je ne me connais aucun vice, je n'ai rien du tout. Et par conséquent, j'attends n'importe qui. Et alors... L'histoire, c'est que cette ordure que vous manie, je la manie, on reproche à un peintre de se servir de la couleur caca dans le fond de ses tableaux. C'est un bon fond de caca, n'est-ce pas? Dans les tableaux, on en a tout le temps, là, des tableaux en caca, il y en a partout. Mais c'est l'opposition des teintes qui fait les choses. Alors, je vois surtout qu'il n'est pas très artiste, n'est-ce pas? Le français est une langue magnifique, mais il n'est pas très artiste.
On entend la voix si reconnaissable de Louis-Ferdinand Céline. José Camoun, vous avez choisi comme onguent littéraire son roman Guignol's Bande, paru en 1944. Alors je resitue rapidement le livre, c'est encore Ferdinand Bardamu. Il est dans les bas-fonds de Londres et c'est un peu une suite de scénettes, une suite de chroniques sur ces bas-fonds de Londres. Il y a toute une galerie de personnages, de prostituées, de clochards, d'ivrognes. C'est poétique, c'est drôlatique, c'est cruel, c'est très violent. Et vous avez surtout choisi un passage dans ce livre.
Oui, je pense que beaucoup d'entre nous s'y reconnaîtront, ou en tout cas il parlera à beaucoup d'entre nous.
Est-ce que vous voulez nous le lire ?
Oui.
Ah, oh, c'est gentil.
On est parti dans la vie avec les conseils des parents. Ah, ils n'ont pas tenu devant l'existence. On est tombé dans des salades qui étaient plus affreuses l'une que l'autre. On est sorti comme on a pu de ces conflagrations funestes. Plutôt de traviole, tout crabe baveux, arculant, pâte en moins. On s'est bien marré quelquefois, faut être juste, même avec la merde. Mais toujours en proie d'inquiétude que les vacheries recommenceraient. Et toujours, elles ont recommencé. Rappelons-nous. On parle souvent des illusions qu'a perdu la jeunesse. On l'a perdue sans illusion, la jeunesse. Encore des histoires. Comme je dis, ça s'est fait d'emblée. On était petits, cons de naissance, tout paumés de souche. On serait nés fils de riches planteurs à Cuba-Havane, par exemple. Tout serait passé bien gentiment. Mais on est venu chez des gougnafs, dans un coin pourri, sous toute part. Alors faut pâtir pour la caste.
Alors sous cette langue absolument truculente, il y a malgré tout un constat peu réjouissant. On est broyé par le monde, malgré quelques moments rigolos.
Écoutez, on est broyé par le monde, mais si ça doit donner ça, ça va encore.
Vous acceptez?
Oui.
Vous vous portez candidate?
Je me porte candidate parce que parmi les remèdes à la mélancolie, j'en vois un flagrant, c'est l'admiration. L'admiration qu'on peut porter à ce qu'on ne peut pas faire et que les autres peuvent faire. Et ça peut partir des figures qu'un patineur exécute dans la rue, jusqu'à ces figures de patineur que Céline exécute sous nos yeux et nos oreilles. Moi, ça me diminue pas, ça m'augmente.
Donc l'admiration lorsqu'elle n'est pas teintée d'envie.
Bah non, parce que c'est incommensurable qui peut faire ça à part lui.
C'est vrai, il est reconnaissable entre mille. Et absolument. D'ailleurs, pour la traduction, c'est un casse-tête.
J'imagine, enfin je fais plus qu'imaginer, parce que la curiosité m'a poussée donc à acheter une traduction de Gignolsman, précisément, en anglais. Alors, c'est fabuleux, parce que il y a deux choses totalement contradictoires. La première, c'est que l'anglais se prête finalement beaucoup mieux que le français à ce funambulisme à cause de son schéma intonatif et de ses intonations et de ses accents toniques. Donc la phrase se désarticule, se désosse, hein, c'est Valentin le désossé. Ça marche très bien en anglais, ça marche presque trop bien. En revanche, tous les décalages qu'il y a entre le vocabulaire parfois ergotique, ordurier, pittoresque ou au contraire extrêmement savant de Céline et sa syntaxe, en anglais, on peut plus trop le faire. L'anglais est beaucoup moins riche sur le plan de l'argot. Donc, la spécificité du style de Céline, on en perd forcément une partie, mais tel est le destin du traducteur.
Oui, dur destin du traducteur.
C'est ça.
Céline, on parle souvent de son nihilisme, on met souvent l'accent sur son dégoût du monde, sa haine du monde. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui me frappe, c'est-à-dire déjà pour faire une telle œuvre, on ne peut pas être nihiliste. Et surtout par sa musique, on voit bien qu'il est du côté du bouillonnement, de l'élan vital.
Mais absolument, c'est-à-dire que c'est peut-être une écriture sur la noirceur, et même une écriture de la noirceur, mais c'est pas une écriture dépressive.
Non, c'est pas délétère.
Au contraire, mais ça explose, hein.
Gignol's Band, c'est un texte particulier. Dedans, il refuse toutes les constructions classiques de phrases. Il n'y a pas une seule phrase à laquelle on peut s'attendre.
C'est tout le charme de cette bousculade que la phrase vous fait subir. Elle vous brasse dans tous les sens, hein, comme un tourbillon, et on en redemande. Lorsque j'ai lu la suite, donc Gignol's Band 2, Le Pont de Londres, mais un certain temps, pour les lecteurs qui nous écoutent, mais un certain temps arrivé, hein, ne croyez pas que vous l'aurez dans les 15 premières pages. Et donc ça va, comme ça, de chronique en chronique, et puis ça monte, et quand on arrive sur le Pont de Londres, quand on y est enfin, au lever du jour, je vous assure que j'en ai pleuré de pure émotion esthétique. C'est pas du tout pathétique, on n'est pas du tout dans le pathos, c'est tellement beau qu'on en chiale.
Il vous arrive, j'ai lu ça dans des interviews, José Camoun, de lire des textes à haute voix, tant la musique de l'auteur est importante.
Ah oui, bien sûr, les traducteurs, et je suis sûrement pas la seule, les traducteurs, ils ont leur gueuloir. Hein.
Comme Flaubert qui forçait absolument ses amis à l'écouter 8 heures d'affilée.
Oui, alors bon, en général, on fait ça assez discrètement, ou quelquefois on peut le faire avec l'auteur, je l'ai fait plusieurs fois avec Philippe Roth, pour qu'il entende ce que ça donnait.
Et ça lui plaisait avant que vous vous sépariez à l'amiable quand il a commencé à faire revoir vos traductions,
oui,
à son entourage?
Oui, bien sûr que ça lui plaisait. Il me disait, mais ça sonne pas pareil. Et donc on essayait d'arriver à quelque chose qui soit le plus possible, qui épouse le mouvement, disons.
Lorsque vous faites une traduction, vous vivez en moyenne un an avec un roman. Ce n'est pas rien, il y a 5 versions, parfois plus, pour certains passages. Mais vous dites que la littérature vraiment vous console et vous enrichit.
Oui, je crois que il paraît que c'est Pessoa qui a dit ça à la littérature parce que la vie ne suffit pas.
Un grand dépressif.
Et ben, oui, il savait de quoi il causait. Donc, et pourtant la vie est ample et riche et dense et truffée de tout et du reste. Oui, la littérature, elle peut exalter, elle peut adoucir, apaiser, elle peut faire rire aux éclats aussi quand même. Lorsque je lis ça, tout crabe baveux, arculon, pas tant moins, moi je ris. Hein.
Et con de naissance aussi, c'est merveilleux.
Oui, tout paumé de souche, c'est délectable.
On vient d'évoquer l'âpreté célinienne, la citation qui vous réconforte, José Camoun, est de la même façon assez frontale, sans embâge. Tue-toi ou ne te tue pas, mais ne laisse pas dépasser de ta poche arrière cette crosse de revolver qui invite le coup de pied au cul. C'est une amie qui vous l'a révélé un jour et vous n'avez pas pu la retrouver. Vous ajoutez, absolument, peut-être l'avait-elle inventée, après tout, c'est une traductrice. Comment est-ce que vous entendez cette citation?
J'entends cette citation, j'y entends l'exaspération de l'entourage d'un mélancolique ou peut-être l'humour final du mélancolique lui-même qui se regarde et qui se dit... Bon, bah, ça suffit, on va arrêter.
La mise en scène, arrêtons voilà, la mise
exactement.
En scène.
Exactement, on va arrêter d'enquiquiner tout le monde et soi-même. Et soit on va se servir de ce fameux flingue, soit on va arrêter de le laisser dépasser. Je crois que la complaisance mélancolique, c'est quelque chose qu'il faut fuir pour soi-même. Et évidemment, si on veut rester un minimum populaire auprès de son entourage.
Lorsqu'on a un entourage.
Ah, c'est vrai. Oui. Vous voulez dire quand on n'a pas encore fait le vide autour de soi.
Oui, c'est ça. Lorsque vous étiez petite, José Camoun, votre mère, professeure de philosophie, vous disait « Oui, nous allons tous mourir et personne ne sait s'il y a un après, mais ce qu'on sait, c'est qu'il peut y avoir de l'éternité dans un instant. » On revient au festin de Babette. Et plus tard, vous avez lu ces mots « Les Grecs construisaient comme s'ils allaient vivre 1000 ans et ils mangeaient comme s'ils devaient mourir demain. » Deux idées qui prolongent la citation précédente.
Absolument. Je pense que si on s'y tenait, si on s'y tient, ça ne me paraît pas insurmontable, si on s'y tient, ça va marcher. On va non seulement survivre, mais vivre. C'est-à-dire que si on se complaît indéfiniment en se disant « mais de toute façon, tout passe, de toute façon, à quoi bon ? De toute façon, nous ne sommes que des fantômes dans ce monde, etc. » Alors là, évidemment, on n'entreprendra rien. Il faut entreprendre comme si, il faut faire comme si nous allions laisser une trace, nous allions être utiles à la postérité. Il faut faire comme si, mais il faut jamais oublier qu'aujourd'hui est peut-être le dernier jour que nous vivons. Alors profitons-en. Ces deux choses me paraissent parfaitement compatibles, et non seulement compatibles, mais parfaitement complémentaires. Et c'est un bon principe vital.
Et ça vous arrive d'avoir la tentation justement de l'aquabonisme, la tentation du nihilisme, lorsque vous êtes par exemple en train de faire une traduction, de vous dire « mais à quoi bon toutes ces heures passées à traduire un texte ?»
Oh, bien sûr, je pense que...
Dès qu'on fait une œuvre d'art ou d'artisanat, on peut avoir cette pensée.
Oh, mais on peut avoir cette pensée pour tout et n'importe quoi. J'ai reçu, par l'intermédiaire de la Maison Gallimard, une lettre, je ne vais pas la qualifier d'une lettre de haine, mais enfin, d'assez curieux, d'un auditeur qui me disait « Je vous ai entendu sur les ondes, vous parlez de la traduction avec passion ». Je déteste la traduction, me dit-il. Je pense que ça ne devrait pas exister. Et quand je vous ai entendu lire votre traduction de Sur la route, j'ai voulu éteindre le poste. Vous voyez, alors là, vous pouvez quand même être légitimement pénétré de votre insignifiance. Vous dites, voilà quelqu'un qui m'écrit pour m'engueuler, en quelque sorte. C'est très surprenant.
Oui, on connaît ça à la radio.
Je présume.
Mais vous imaginez, ça signifierait qu'il nous faudrait parler absolument toutes les langues pour avoir accès aux chefs-d'œuvre de la littérature mondiale.
J'en déduis qu'il n'a pas lu Homère, qu'il n'a pas lu Crime et Châtiment, Cent ans de solitude, enfin Dieu sait quoi encore. Ça me laisse perplexe, mais c'est ainsi.
Moi aussi. J'espère qu'il ne sera jamais gouverneur de l'univers, ce poste que je vais inventer dans 5 minutes. En tout cas, cette phrase, on a essayé de la trouver. Les Grecs construisaient comme s'ils allaient vivre 1000 ans et ils mangeaient comme s'ils devaient mourir demain. Et c'est amusant, José Camoun, tout à l'heure vous disiez, je ne sais pas si c'est une phrase exacte car c'était une traductrice qui me l'a rapportée. Et là, c'est pareil, on la trouve chez Empédocle, le philosophe, poète et médecin présocratique, qui se moquait des citoyens d'Agrigente en Sicile, et il disait, ils construisent comme s'ils devaient vivre éternellement et mangent comme s'ils allaient mourir demain. Pour lui, c'était négatif. On la retrouve aussi chez Gandhi, qui lui dit, vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Pas mal pour l'apprentissage.
Oui, ça me paraît tout à fait du même ordre. Bah, écoutez, on peut toujours s'en moquer. Hein. Je laisse à Empédocle la responsabilité.
Je suis de votre côté.
Opinion.
Je vous choisis contre Empédocle.
Bah, il n'y avait pas de moi.
Nous traversons plusieurs époques, continents et langues à travers vos remèdes. Sautons en Amérique latine grâce à votre premier sérum musical.
Bonsoir la société, petit à moi.
Bonsoir messieurs. Oui, messieurs, madame Grandouvan, c'est pas comme ça, oui, pas les Français. Oui, messieurs, madame Grandouvan, oui, messieurs.
Vous écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter et j'ai face à moi une grâce qui danse, qui se déhanche sur cette musique qu'elle nous fait écouter. C'est Skira Gallardi, la traductrice José Camoun, titre de 2000, Oui par les Français, du guitariste, clarinettiste et chanteur cubain Compay Segundo. On est encore entre deux langues.
C'est vrai, et ça m'a beaucoup amusée. Je trouvais qu'il y avait ce petit parfum peut-être joyeux et quelque peu érotique du français, qui a toujours plus ou moins cette vocation.
Le grivois.
Oui, le polisson, ou le lest, ou tout simplement l'érotique. Et je trouve tellement drôle que Compay Segundo, qui est devenu mondialement célèbre à 90 ans, soit mort beau et quasiment en dansant et en chantant. Lui qui disait devant les caméras... Ben, ça fait 85 ans que je fume le cigare. Alors tout de même, le journaliste, un peu étonné, hausse un sourcil. Non, dit Compay Segundo, ma grand-mère, qui était aveugle, me disait « Va allumer mon cigare, mon petit !» Donc je l'ai lui allumé depuis l'âge de 5 ans. Donc si vous comptez, ben, ça fait 85 ans que je fume le cigare. Ça l'a pas tué.
Est-ce que vous écoutez souvent Compay Segundo? Est-ce que vous avez vu, d'ailleurs, le documentaire de Wim Wenders, Buena Vista Society?
Ben, ça a commencé comme ça. Je ne le connaissais pas avant. J'avais entendu la musique cubaine largement, mais j'étais pas encore allée à Cuba à cette époque-là et je connaissais pas du tout Compay Segundo. Et évidemment, après le film, comme beaucoup de gens, je me suis mise à acheter cette musique que je trouve particulièrement bienheureuse, innocente et bienheureuse.
C'est vrai, il y a aussi parfois une mélancolie sourde, mais vraiment une saudade, une mélancolie douce, jamais brutale.
C'est vrai, mais pas dans la chanson qu'on vient d'entendre.
Non, là vraiment, elle était exempte de mélancolie.
Oui.
Vous parlez espagnol ?
Non, j'arrive à peu près à comprendre un certain nombre de choses, parce que 10 ans de latin, ça aide quand même pour l'italien et l'espagnol, surtout l'italien, mais quand même l'espagnol. Mais donc, je n'ai jamais lu, par exemple, je ne peux pas lire Cent ans de solitude en espagnol. Voilà.
C'est un regret ?
Oui, sans être comme mon correspondant à serbe. Oui, c'est quand même un regret, bien sûr.
Autre choix. Say
person cool down your temper, Mr. Cop.
José Camoun vient de se transformer en chanteur jamaïcain en face de moi. On entend Mr. Cop du chanteur jamaïcain Gregory Isaacs. Et vous dites, José Camoun, du reggae à consommer en perfusion avec du tiponche.
Oui.
Alors, cool down your temper, Mr. Cop, comment vous le traduiriez?
Alors peut-être de façon familière, calme ta joie.
Ouais.
Mon pote le flic.
Et vous, ça, qu'est-ce que ça fait comme effet pour vous? C'est lénifiant d'entendre ce morceau?
Alors, lénifiant, oui, je pense qu'on pourrait employer cette expression, mais dans lénifiant, il y aurait peut-être quelque chose d'un petit peu débilitant.
Oui,
si
c'est
vous
vrai, un peu négatif.
Et donc, là aussi, il s'agit d'un début de griserie, vous voyez, ce qu'on éprouve quand on est un peu pompette. Et si on s'arrête là, ça va être bien. Après, ça va être autre chose, on va dire. Et oui, alors c'est tous les clichés qu'on peut imaginer sur la Caraïbe, hein, c'est-à-dire, ils sont en train de fumer de la ganja, et puis de refaire le monde dans leur tête et pas grand-chose de leurs mains. Donc derrière ça, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision aussi, je pense, dans cette chanson. Et puis sur le plan mélodique, musical, c'est vraiment un miel qui vous coule dans les veines.
C'est vrai qu'on ne pouvait pas s'empêcher de remuer comme des folles en studio. Je le dis, je dévoile les coulisses.
Personne ne nous voit.
Non, mais on nous entend. Et vous buvez du tiponche à chaque écoute?
Ah non, ça ce serait redoutable. Hein. Non, le tiponche, je me l'octroie de temps en temps.
Vous écoutez beaucoup de musique?
J'écoute pas mal de musique, beaucoup de musique africaine. J'aime beaucoup le reggae aussi. J'écoute toutes sortes de musique, j'écoute aussi de la musique classique, ça va de soi. Oui, j'en écoute pas mal, oui.
Il y a une grande importance de la musique dans la traduction. Et puis j'ai lu une anecdote que j'aimerais bien que vous nous racontiez, José Camoun. Un jour, vous hésitiez sur comment entreprendre la traduction d'un texte et votre fils, qui était bassiste, tombe sur le livre, l'ouvre, lit quelques lignes et vous dit « c'est marrant, j'ai l'impression que c'est de la basse ».
Ah oui, c'est une anecdote que j'ai racontée une fois et du coup, ça a frappé tout le monde, mais elle est vraie. Donc en effet, il avait 18 ans, bien sûr il parlait anglais couramment à l'époque, mais enfin il chantait plutôt en yaourt quand même. Et donc il se met à lire cette page d'ouverture et il dit ça. Alors c'était un livre de prose poétique extrêmement difficile à traduire. D'ailleurs cette ouverture, je l'ai traduite 36 fois, enfin 31 pour être plus exact. Bon, jusque-là, c'est assez frappant, mais c'est tout. Bien des années plus tard, l'auteur arrive à Paris et je suis reçue chez une grande traductrice et un de ses amis, deux personnes bien connues dans le monde de l'édition. Et nous attendons l'auteur, qui est un personnage assez mystérieux, personne ne l'a jamais vu, moi non plus, je l'ai au téléphone, il a une voix très grave, c'est tout ce que je sais. On pense qu'il est peut-être métis d'ailleurs, et on dit qu'il s'appuie sur une canne à pommeau d'argent car il a un pied beau comme Lord Byron. Alors vous pensez bien qu'on est tous les trois, on l'attend avec impatience. Donc, il arrive, il est assez fidèle à ce début de légende, et courtoisement, il me remercie du travail que j'ai fait, qui a été très admiré, etc. Et je lui raconte cette anecdote, voilà. Et là, il se recule dans son fauteuil, il nous regarde d'un air stupéfait, et il dit « Je suis contrebassiste moi-même, j'ai composé cette ouverture comme une ouverture de contrebasse. » Il faut croire que dans les rythmes, il en restait quelque chose d'immédiatement perceptible par un autre musicien. Faut bien croire.
Je le crois.
Val d'Orbé, c'est une calanque dans Marseille. Sur la corniche, qui est très fréquentée par les Marseillais, qui est d'ailleurs toute petite, et qui s'ouvre à l'envers de toutes les autres calanques de Marseille. C'est-à-dire, elle s'ouvre vers le sud, alors que les autres s'ouvrent vers l'ouest plus facilement.
1972 sur France Culture, l'écrivain et journaliste André Remac, l'auteur entre autres de La Calanque de Mal Dormé. Vous avez un lieu idéal, José Camoun. Vous en parlez presque comme un lieu mythologique. Il se situe dans la ville où vous avez grandi à partir de l'âge de 7 ans et où vous retournez à peu près tous les ans et vous voyez mourir paisiblement. C'est Malmousque, un quartier de Marseille.
C'est très beau, Malmousque. C'est encore du Marseille populaire, bien qu'il y ait des villas chics. Et vous avez l'impression, je revois cette image de trois jeunes filles qui peuvent avoir 15 ans.
Que vous nous avez jointes d'ailleurs.
Voilà. Alors je les ai vues, elles étaient en train de se baigner. Elles se tenaient toutes les trois en ronde, vous voyez, comme les trois grâces. Et elles faisaient un, deux, trois, et à trois, elles s'immergeaient, elles faisaient la cabriole et elles ressortaient. Et j'avais l'impression que depuis Homère, rien n'avait changé. Et que peut-être, au fond, rien ne changerait jamais dans cette magnifique jeunesse, si dorée, si pleine de rire, si parfaite.
Et vous avez prévu vraiment de passer vos derniers jours là-bas ?
Encore faudrait-il prévoir ces derniers jours de manière un peu rationnelle.
C'est vrai.
Si la chose est possible, il me semble que j'aimerais fermer les yeux sur leur splendeur. Voilà. Rien n'est plus paisible que ça.
Vous vous entourez de beauté depuis toujours et ça ne va pas s'arrêter.
Absolument.
Merci beaucoup José Camoun d'être venu.
Merci à vous.
Chers auditeurs, cette émission a initialement été diffusée le 16 septembre 2018. Dans un instant, Un été avec Rimbaud par Sylvain Tesson, mais juste avant un titre de la playlist France Inter, Chasseur de papillons de Louis Chédid.
Comme un chasseur de papillons, je cours derrière les émotions, en allant le plus loin possible, sur les chemins de l'invisible, là où le cœur bat la mesure, l'air devient de plus en plus pur, une impression d'apesanteur qui remet les pendules à l'heure. Et quand la chasse a été bonne, j'en fais profiter des personnes que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Et pourtant comme on se comprend. Pour vous plaire, vous faire rêver, vous distraire, chanter, danser, ne serait-ce qu'un instant, retrouver nos cœurs d'enfants et partir. Chasser les papillons, partir, chasser les papillons. L'humanité, quel terrain de jeu, pour l'inspiration qui dit mieux, des histoires à n'en plus finir, et des notes pour se faire plaisir. Tous les jours je pars en vadrouille, et même quand je reviens bredouille, je me dis, attends que la muse te rappelle, le jeu en vaut bien la chandelle. Pour vous plaire, vous faire rêver, vous distraire, chanter et danser, ne serait-ce qu'un instant. Nos cœurs d'enfants et partir, chasser les papillons, partir, chasser les papillons. Chasser les papillons, partir, chasser les papillons.